1638 88 971 1021. C'est Gravel dans le retour à Boulevard, sur les routes Audrey.
C'est difficile en ce moment. Si vous êtes sur la capitale, direction Est, entre Henri-IV et Laurentienne, là, pas mal au ralenti. Robert Bourassa, direction Nord, entre Charest et Wilfrid Hamel, il y a des problèmes également. Si vous êtes sur Henri-IV Nord, entre Sainte-Geneviève et l'avenue industrielle, gros ralentissement aussi dans le coin de Val-Bélair. Henri-IV Sud, ça se passe à partir de Charest jusqu'à l'entrée des ponts. Si vous êtes sur Duplessis, direction sud, à partir de chemin Sainte-Foy, ça ralentit jusqu'au pont Pierre-Laporte. Pour ce qui est de la 20, direction ouest, ça se passe entre la route du président Kennedy et chemin des îles. Il y a quelques ralentissements aussi à prévoir à la hauteur de Taniata, évidemment. Quoi que ce soit d'autre, 88-971-1021, texto.
Une autre journée bien, bien tranquille dans le monde de la politique.
Faut trouver des sujets, c'est difficile.
Toujours tannant de recevoir une analyse politique puis de se poser la question de quoi est-ce qu'on va parler.
On va parler aujourd'hui.
Encore fourré. Anthony Niacarini, bonjour.
Allô, ça va bien?
Ça va bien, toi?
Oui.
Es-tu usé par ta job?
Ben non.
Toi, non?
Non.
Ben, t'es encore jeune et dynamique, voyons.
Non, mais j'ai une grosse semaine. Puis la semaine prochaine, ben...
Ah oui, ça va être une grosse semaine, la semaine
ça
prochaine?
Ça s'annonce pas pire.
Je vois pas à quoi tu fais référence.
Non? Avant de parler du lancement de la campagne électorale au fédéral, parlons de la vedette du jour, Gabriel Nadeau-Dubois. Il est usé, il s'en va. Tu penses quoi de ça?
Je pense que Québec solidaire a tendance à faire ça, user les députés, puis surtout ceux qui essayent de recentrer un peu le parti. Hein. C'est ça, finalement, l'histoire entourant Gabriel Nadeau-Dubois. C'est quelqu'un qui a un talent naturel, que tu sois en accord ou non avec ses idées.
Oui,
tout le monde
tout
lui
fait.
Reconnaît un grand talent de communication, oui. Puis vraiment des compétences politiques exceptionnelles, qui est arrivé à Québec solidaire avec un objectif. C'était celui d'en faire un parti qui peut accéder au pouvoir.
Hein, est-ce que ça a toujours été ça quand il s'est joint à Québec solidaire ou à l'époque c'était très marginal? C'est venu avec le temps, ça?
Absolument. T'sais, Québec solidaire, c'est un parti qui est venu de la base, qui est venu des groupes communautaires et qui a fusionné aussi avec un parti beaucoup plus à gauche qui s'appelait l'UFP, l'Union des forces progressistes, si ma mémoire est bonne. Et on est vraiment dans la frange très, très militante, un petit peu plus, je ne veux pas dire extrémiste, parce que là, on n'est pas là, dans des violences et tout ça. Là. Mais c'est de la très, 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 très gauche.
Oh, ouais.
Et le mouvement plus syndical aussi. Donc, c'est tout ça qui a composé Québec solidaire. Mais c'est pas un parti qui a commencé par des élections. Là. On a commencé par des groupes qui se sont réunis, qui ont fait des manifestes, là, puis tout ça. Donc, ça vient de la base et ils ont des statuts d'une complexité byzantine. Ça fait longtemps que j'aurais pas dit byzantine.
Ça se place toujours bien dans une conversation.
Mais pour Québec solidaire, on dirait que ça marchait.
Si t'étais analyste sportive, t'aurais plus de misère à le placer. Là, mais en politique, ça se glisse quand même bien.
Ben, au football, des fois, il y a des jeux très, très complexes.
Très byzantin.
Ça peut être byzantin.
Quand même.
On sait jamais. Donc, c'est un parti comme ça. Et Gabriel Nadeau-Dubois, l'année passée, était sorti à la suite de la démission de sa co-porte-parole féminine, Émilise Lessard-Terrien. Il avait profité d'une crise. C'est bien de profiter des crises, des fois, pour brasser la cage, puis se dire quelle carte va tomber du bon côté par terre si je lance le paquet. C'est un peu ça qui s'est passé. Il a dit ça ne peut pas continuer comme ça. Moi, je ne suis pas capable de jouer mon rôle de leader de ce parti-là avec les statuts actuels. On est des porte-parole, mais on n'a aucune marge pour prendre des décisions. On prend la chaleur politique, mais je n'arrive pas à prendre des positions rapidement. Ce n'est pas étranger aux résultats qu'on voit dans les sondages. Mm-hmm. Par exemple, s'il se passe quelque chose, puis que les gens sont bien, bien intéressés par un enjeu, un sujet, Gabriel Nadeau-Dubois ou Ruba Gazal, sa collègue co-porte-parole, ils peuvent pas se réunir en caucus puis se dire « Hey, on va y aller dans cette direction-là, on va prendre position, on va saisir cette opportunité-là pour montrer notre vision de Québec solidaire. » Non, non, non! Il faut passer par des comités, il faut aller chercher des paliers d'approbation. Ça marche pas comme ça. Comment tu peux marquer des points politiques.
C'est un vrai collectif, là.
Oui.
Mais est-ce que ce qui a coulé peut-être la fin de carrière de Gabriel Nadeau-Dubois chez Québec solidaire, c'est pas un peu ça, la volonté de rester ce que c'était au départ Québec solidaire? Puis j'essaie de comprendre les deux côtés. Moi, je me dis, dans le milieu, dans le centre politique, il y a comme un jello là, dans lequel est pogné la CAQ, le Parti libéral et le Parti québécois. De faire du bruit des deux autres côtés et à droite et à gauche, ça a son utilité.
Ça fait avancer des débats.
Je pense que ça
se tient.
Oui.
Ça se tient comme positionnement, puis ça peut être ça. Mais c'était pas ça que lui souhaitait faire.
Est-ce qu'il a vu ce qui s'est passé avec le Parti québécois et Paul Saint-Pierre Plamondon, un parti qui était presque mort à un moment donné, le Parti québécois, puis il s'est dit « Hey, attends un peu, là, ça aurait pu être nous autres, ça, puis ça aurait pu être moi, là, le prochain premier ministre. Penses-tu que c'est quelque chose qui a fait partie de cette réflexion-là? »
Ben, je pense qu'il aurait aimé du moins se positionner comme l'alternative à ce qu'on voyait du côté de la CAQ. Dans le premier mandat, je ne sais pas si vous vous souvenez, parce qu'on dirait que ça fait 2 millions d'années, étant donné qu'il se passe tellement de choses, mais François Legault aimait avoir Gabriel Nadeau-Dubois comme son adversaire principal. Hein? Legault qui
c'est lui qui prenait toute la place.
Absolument. Il ignorait le Parti libéral, il ignorait le PQ, puis il aimait ça, là, ce col taillé avec Gabriel Nadeau-Dubois. Et il y avait plus de lumière, il y avait plus d'espace médiatique qui était réservé. Puis là, ce qui s'est passé, c'est que ben, l'élection en 2022, c'était pas des résultats exceptionnels pour Québec solidaire. On a même vu un recul. On a perdu une députée pour la première fois, alors que Manon Massé était allée chercher, quand c'était elle qui avait été mise l'avant pendant la campagne précédente, plein de nouveaux députés. Puis là, c'est comme si le PQ, avec son agilité, hein, un petit caucus de 3 députés au départ et des statuts moins compliqués qui fait que le chef, le matin, il peut se lever puis dire « OK, on s'en va par là, la gang, aujourd'hui », bien, ils ont réussi à marquer beaucoup de points. Fait que c'est sûr que Gabriel Nadeau-Dubois doit regarder ça puis être un petit peu jaloux.
Le principe de laver son linge sale, non pas en famille, mais en public, puis je pense à Catherine Dorion, entre autres, qui avait fait certaines sorties, puis l'ancienne co-porte-parole aussi, qui avait été quand même assez acerbe. On a l'impression qu'à un certain moment donné, à l'intérieur, je disais en onde tantôt, on dirait qu'il n'y a rien de moins solidaire qu'un solidaire actuellement du côté de QS.
Oui, puis on a eu d'autres manifestations de non-solidarité aussi récemment, parce que là...
Il n'y avait personne avec la candidate
personne
lundi
avec
du côté
la
de Terrebonne. C'est terrible!
En passant, je dis, cette histoire-là est partie, a fait des vagues cette semaine. C'est moi qui étais... Je suis allée au Rassemblement de Québec solidaire. J'ai fait tous les rassemblements lundi soir. C'est moi qui ai constaté qu'il n'y avait personne.
Qui l'avait laissé tout seul au combat.
Je suis rentrée là. Puis j'étais comme, OK, ben bonjour. Je parle avec des gens qui étaient sur place. Je peux parler avec la candidate comme telle. J'avais 4 rassemblements à faire en 2 heures. Là. C'était quand même du sport dans un grand comté banlieusard. Alors, j'étais sur un horaire.
T'as-tu demandé de rester là toute la soirée pour faire un fond pour les
venir compagnie aussi pour remplir la salle? Non, elle n'a pas eu le temps vraiment de me parler, mais j'ai parlé quelques instants avec des personnes qui étaient sur place. Puis je dis, est-ce qu'il y a des députés qui vont venir plus tard? Est-ce que, non, les députés demain sont à Québec. Fait que, vous comprenez. Moi, je revenais du rassemblement du Parti libéral, d'avoir 8 députés. Là-dedans.
Puis ils n'étaient pas à Québec le lendemain.
Non, c'est ça. Il n'y a pas d'affaires à Québec, eux autres. Donc, c'était vraiment étrange, cette affaire-là, qui a fait en sorte aussi d'ajouter un peu à ce narratif-là. Autre enjeu qu'il y a eu avec Québec solidaire, les propos de Haroun Bouazizi.
Oui, c'est vrai. Oui, ça a fait mal, ça. Oui.
Et ça a brassé au caucus, notamment justement entre les gens un petit peu plus pragmatiques, puis ceux qui sont des militants, là, puis qui pensent qu'ils ont tout le temps raison, puis qui préfèrent avoir raison que de gagner des points politiques, finalement.
C'est quoi la suite pour Québec solidaire? Est-ce que c'est de redevenir très minoritaire à l'Assemblée nationale puis de continuer de faire du bruit fort, ou il y a quelqu'un présentement dans le line-up qui peut peut-être faire ce que Gabriel Nadeau-Dubois n'a pas réussi à faire?
Bien, premièrement, les porte-paroles peuvent être extra-parlementaires, donc c'est pas obligé d'être un élu. Ça a déjà été le cas. Andrés Fontecilla a déjà été co-porte-parole de Québec solidaire avant de devenir député comme tel. Moi, j'ai pensé à quelque chose. Vincent Marissal...
Qui a choisi de ne pas se présenter à la mairie de Montréal.
Tu sais, tantôt, ça m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, peut-être que Gabriel Nadeau-Dubois, il a dit, tu sais, Vincent, tu peux peut-être laisser faire la mairie parce que je m'en vais.
C'est pas fou pas en toute réflexion, ça.
Tu penses que ça a peut-être été planifié un petit peu?
Ben, c'est parce que ça a viré bout pour bout sur une très courte période, Vincent Marissal.
Puis il faisait plein de rencontres, puis il avait l'air d'un gars qui allait y aller.
Oui, c'est vrai.
Puis finalement, non. Fait que peut-être que ça a joué dans sa réflexion de dire, c'est vrai, tu sais, peut-être que je pourrais prendre le rôle de porte-parole, puis ça pourrait le remotiver, là, parce qu'il semble avoir une baisse de motivation chez QS. Tu demandais qu'est-ce qui va arriver dans les prochains mois. Moi, je pense pas que c'est le seul départ. Je pense qu'on va avoir d'autres députés qui vont pas se représenter. Puis ce qu'on voit pas, parce que là, c'est ce qui se voit, mais ce qu'on voit pas, c'est les staffers aussi. Il y a des employés politiques qui vont quitter en même temps que Gabriel Nadeau-Dubois. Il y a toute une gang, lui, qui avait amené à l'Assemblée nationale, qui le suivait, lui, et qui vont pas nécessairement vouloir rester après son départ. Donc, le parti pourrait redevenir un petit peu marginal. Ça pourrait se marginaliser. Ou il pourrait avoir quelqu'un qui prend la relève puis qui remonte l'affaire en politique. Vous avez vu comment les choses peuvent changer
avec le PQ?
Avec le PQ puis avec le Parti libéral du Canada
c'est
en
vrai,
ce moment.
T'as raison.
Il y a quelques mois, il était fini. Puis là, tout à coup, ils sont premiers dans les sondages.
As-tu l'impression que Gabriel Nadeau-Dubois pourrait faire un parcours Drainville, par exemple? Aller faire des débats à Radio-Canada à 8 split screen pendant une couple d'années et après ça, peut-être revenir, je sais pas moi, au sein du Parti québécois ou...
Ben peut-être. Je sais pas à quel point quand
quoi
on a
passé... Quoi qu'ils saillissent beaucoup, hein, Québec solidaire et le Parti québécois. Hein?
Moi, je pense qu'avant que Gabriel Nadeau-Dubois entre en politique, il a dû le considérer, le PQ.
Mm-hmm. Okay.
Puis, en fait, il a dû. Il l'a considéré. Il a eu des rencontres.
Il a magasiné.
Il a eu des discussions. Là. On va arrêter de se faire désaccroire. Et il a choisi d'aller avec Québec solidaire. Mais une fois que tu as passé plusieurs années à la tête d'un parti qui, justement, les militants passent leur temps à attaquer le PQ et les militants du PQ passent leur temps à attaquer les militants de Québec solidaire, puis ça saillit des fois à mourir.
Plus que, mettons, les solidaires puis les conservateurs à Duhem, mettons.
Ah, genre, là.
C'est une guerre fratricide,
ben,
quasiment.
C'est ça, oui, c'est ça qu'on dit, hein, que c'est les guerres fratricides qui sont des fois les plus violentes. Il s'agit d'une analogie, là. Les gens ne se battent pas pour vrai à la sortie de l'Assemblée nationale. Mais je pense qu'après avoir passé quelques années à la tête de QS, il faudrait qu'ils laissent passer un peu de temps, là, avant de, si vous voulez retourner au PQ. De toute façon, le temps est long, là. Il va probablement prendre quelques années. Être dans les médias, c'est sûr que c'est une porte qui est ouverte pour lui. C'est un excellent communicateur. Et il n'y a pas tant que ça des intervenants, même si certaines personnes, quand sont plus à droite, trouvent que tout le monde est à gauche à la télé. Tout le monde à gauche trouve que tout le monde est à droite à TV. Il n'y en a pas tant que ça des ex de Québec solidaire qui font des médias, parce que c'est un parti qui est relativement
nouveau. C'est jeune, mais oui. On déclenche les élections fédérales dimanche, normalement. Comment tu vois le Québec stratégiquement dans cette élection-là? Parce qu'il s'est passé des drôles de choses là, juste dans la dernière semaine. Un Mark Carney qui est venu se saucer à Montréal parce qu'il n'avait pas le temps de faire le tour. Pierre Poilievre qui, lui, prend le temps de faire le tour.
T'as-tu... en français beaucoup dans les médias.
Absolument. Hein? Il veut mettre ça en contraste avec son adversaire.
T'as-tu l'impression que, pour une fois, ce ne serait pas la bataille de l'Ontario qui va être le nerf de la guerre, mais peut-être la bataille du Québec?
Non.
Pas à ce point-là.
Malheureusement, le poids de l'Ontario, là,
trop
y a rien
fort
à faire. Okay? On fera jamais le poids contre Toronto. Ça n'arrivera pas.
À cause de la manière dont on fonctionne avec le vote, puis le nombre de députés.
Système politique, plus démographie, c'est plus fort que tout. Les élections, c'est mathématique. Mm. Donc, on peut pas. Par contre, d'avoir un gouvernement qui est élu sans le Québec... C'est sûr que ça crée des problématiques. Tu sais, Pierre Poilievre est capable de devenir premier ministre du Canada sans le Québec, là, avec ses quelques députés actuels. Mais le voyez-vous comment il travaille? Il vient au Québec à peu près une fois par mois.
Oui.
Là, il est encore à Saguenay aujourd'hui.
Là, il était à Québec avec François Legault au moment où on se parle. Il y avait une rencontre, en fait, à 15h30.
À 15h30. Il le travaille, là, son terrain québécois. Il met de l'avant qu'il parle bien français. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il connaît quand même bien le Québec. Intéressé à la culture québécoise, à l'histoire québécoise. Il connaît les premiers ministres du passé. Donc, c'est quelqu'un qui a un intérêt pour le Québec, même s'il n'est pas québécois. Du côté de Carney, on le sait pas, on sait rien, mais c'est sûr que je ne sens pas une sensibilité, un attachement, un lien particulier envers le Québec, et son français est problématique.
D'aller chercher, par exemple, un Carlos Letao qui est sorti quand même indemne de la politique provinciale, d'essayer d'y aller avec des candidats qui ont une image économique, est-ce que ça risque d'être plus la stratégie de Carney pour essayer de séduire à défaut d'être capable de séduire lui-même?
Quand ton poster child, c'est Carlos Letao au Québec, je suis pas convaincue.
Mais il y a une notoriété, par exemple.
Il y a une notoriété. C'est une candidature vedette. Je ne l'enlève pas. Cela dit...
Ça manque de sex appeal.
Ben, c'est pas,
on le verra pas en t-shirt blanc, mettons.
C'est pas mon attente envers nos politiciens, okay, de faire des wet t-shirts. Puis, c'est pas ça, là. Mais je ne pense pas que ça va démontrer un grand attachement envers le Québec, que ça va pallier pour tous les ministres québécois qui ont été retirés du Conseil des ministres.
Effectivement, ça paraît. Là.
Le flou dans les réponses pendant le débat des candidats du Parti libéral, quand on a posé des questions spécifiques au Québec, ils répondaient des banalités. Il avait l'air de ne pas connaître ces enjeux-là. Le fait qu'il n'y ait pas nommé une ministre des langues officielles. Mm-hmm. C'est toutes des petits éléments, c'est des indices qui me laissent croire qu'il n'y a pas une énorme sensibilité pour ces choses-là. Ce qui l'intéresse, c'est plus les finances, les trucs qui sont plus macro. Puis quand on me fait le discours de l'unité canadienne, moi je veux bien, mais ça va toujours finir par revenir, ces enjeux-là.
Mais
puis
en guerre tarifaire, par exemple, je ne sais pas c'est quoi les préoccupations de la personne qui va aller voter le 28 avril prochain. Est-ce que ma culture prend de la place ou actuellement j'ai besoin de quelqu'un qui a l'air de savoir d'être capable de compter avec une équipe qui sait compter
aussi. C'est la question de l'urne, ce que tu nommes là, et tu as absolument raison. C'est le premier élément, ça va être la priorité des gens, c'est qui est capable de faire face à M. Trump de l'autre côté de la frontière. Mais ça va revenir. Là. Coût de la vie, là, c'est moins populaire, là, mais je veux dire, les prix vont remonter là, nécessairement.
Il y a une
là,
petite hausse de l'inflation cette semaine.
Si, peu importe le premier ministre qui va gagner la prochaine campagne électorale, il va être pogné avec ça après, parce que quand l'économie va pas bien, les politiciens se retrouvent toujours dans l'eau chaude, qu'on le veuille ou non. L'immigration, là, on n'en parle plus, Je veux juste vous dire que s'il n'y a rien qui a changé, là, il y a 6 mois, on disait qu'on était au bord du gouffre puis que nos services publics n'étaient plus capables de fournir parce qu'on reçoit beaucoup trop d'immigrants temporaires et de demandeurs d'asile. C'est pas parce qu'on n'en parle plus que ça n'existe plus. Là.
Non, c'est juste que là, il y a une vague orange. Pas la même que la dernière fois, là, mais c'est un autre type
du orange,
de vague orange.
Oui, spray tan.
C'est ça, peut-être un peu plus.
Il y a une question de l'auditeur qui est rentrée tantôt que je trouve super intéressante. Comment un non-élu démocratiquement par vote peut être premier ministre du Canada? Puis c'est pas la première fois que j'entends cette question-là?
C'est une excellente question. Notre système est fait de façon... en fait, on a un système parlementaire britannique. Donc, le premier ministre, c'est le chef du parti ayant le plus de députés. Donc, quand il y a un député qui était chef qui quitte, ben c'est pas nécessaire d'être un élu pour participer à la course à la direction. C'est la même chose au Québec, c'est les mêmes règles comme telles. Par contre, en termes de légitimité, parce qu'on a un système politique qui est très axé sur la tradition, beaucoup plus que sur les règles écrites. Il y a une tradition qu'on ne va pas rester pendant très longtemps avec un premier ministre qui est non élu, parce qu'en termes de légitimité, c'est très, très ordinaire.
D'où le déclenchement rapide.
D'où le déclenchement rapide, où ça a peut-être rapport aussi un petit peu avec les sondages.
D'après moi, ils font jamais ça.
Non. Puis, on peut aussi avoir des ministres non élus. C'est un droit qu'on a dans les règlements, et c'est déjà arrivé. Michael Fortier a été un ministre non élu. En fait, c'était un sénateur. Les sénateurs sont nommés, ne sont pas élus. Et il a été ministre sous Stephen Harper. Fait que c'est quelque chose qu'on peut faire.
Dans la tendance actuelle, Antonine, comment le Bloc québécois peut réussir à vendre sa salade? Puis ma deuxième question par rapport à ça, as-tu l'impression que la vraie cible des conservateurs au Québec, c'est d'aller chercher des votes là?
Ben oui.
Je pense
absolument.
Que oui.
Absolument.
Hein?
L'adversaire du Bloc au Québec. Mais quoi que, les libéraux sont quand même forts. Si on regarde les sondages à l'heure actuelle,
dans
tout le monde est un
secteurs,
peu à égalité là,
ouais.
là, dans certains secteurs, mais ça dépend des régions. Les régions cibles des conservateurs, c'est quoi? Québec, mm-hmm. Saguenay, Centre du Québec, Chaudière-Appalaches, j'oublie-tu quelqu'un? Mauricie, okay. Mont-Rivière.
Ouais.
On est dans des endroits où est-ce qu'il y a quand même quelques députés du Bloc, là, en Mauricie notamment, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Québec, on n'en a pas.
Bloc, on en a. On a Julie Vignola, entre autres, qui est du Bloc. Puis je me demande si Montmorency, c'est pas aussi bloquiste.
Oui, c'est bloquiste,
ouais,
présentement. J'en ai parlé tantôt.
Absolument. Puis celle qui a le comté très, très grand, qui s'en va jusqu'à l'île d'Orléans, puis l'île aux coudes, ouais. dont j'oublie le nom, vous m'excuserez. Comment le Bloc va faire pour tirer son épingle du jeu?
Contexte est pas mal plus international et fédéral, même.
Mais dans le doute, face à un Mark Carney à qui on veut bien faire confiance, mais à qui on ne fait pas confiance pour nécessairement défendre les intérêts propres au Québec. Tu sais, nos secteurs économiques à nous, gestion de l'offre aussi, notre secteur agricole, les éléments culturels.
Ouais.
Tu sais, les électeurs, je sais bien qu'ils ne font pas comme « OK, je vais voter 3 quarts pour Mark Carney avec 1 quart pour le Bloc parce que ça serait le bon équilibre. »
C'est pas une recette, là.
Non, sauf que peut-être qu'il y a quelques personnes qui vont se dire « Oui, mais il faut qu'on mette quand même un contrebalancier face à des centralisateurs. » Les libéraux, c'est des centralisateurs pour s'assurer que nos intérêts propres aussi soient respectés. Donc, moi, j'y vois une fenêtre pour le Bloc, mais je trouve que c'est bien mal parti. Puis, Yves-François Blanchet, qui est un excellent communicateur, c'est un bon tribun, là, ça a été un bon politicien, les gens l'apprécient beaucoup. Je le regarde un peu aller ces temps-ci et je le trouve un peu aigri.
Je le trouve usé.
Usé.
Pour reprendre un terme qui est sorti
le mot de la journée.
C'est le mot du jour. Ouais.
Toutes les dernières fois que je l'ai entendu, puis tu sais, il parle de temps en temps aussi avec la gang de Reg, je trouve qu'il manque de flamme. Il me donne pas le goût de rassembler des gens. Oui, c'est comme.
C'est quoi la raison de ça?
Ben, premièrement, je pense qu'il sent trop confortable. Parce que des fois, le Bloc, ce que je leur reproche, c'est de prendre notre vote pour acquis. Séduisez-nous. Faites-nous rêver. Puis,
moi, je le reproche à tous les politiciens,
ouais,
by the way. Là.
Ouais,
oui, oui, oui.
Mais en ce moment, tu vois que, mettons, Pierre Poilievre, il est en mode bataille. C'est peut-être dans sa personnalité aussi. J'aimerais le sentir aussi de la part du Bloc, convainquez-nous. Mais le problème, c'est que le réflexe de François Blanchet en ce moment, c'est de faire comme des petits reproches aux médias. Ah, ben on sait bien, là, tout le monde est bien pâmé sur Mark Carney. Moi, j'ai jamais vu un gars pogné en disant, mais on sait bien, hein, les filles aiment mieux les gars
non,
qui sont grands.
Non, absolument, ils restent longtemps.
Tu sais, c'est pas attirant. Non, ouais. C'est ça. Donne-moi le goût de voter pour toi, s'il te plaît. Puis, tu sais, reprocher tes affaires aux médias, je trouve ça un peu facile.
Infantile.
Infantile. Ouais. Écoute, sois bon, puis les médias vont dire que t'es bon. C'est tout.
C'est aussi simple
Sois
que
bon,
ça.
Puis fais briller les gens. Il est capable. De toi aussi, là.
Oui, puis mets ton équipe de l'avant. Mais il est capable, on le sait. Dans la dernière campagne électorale, là, il a fait un super bon débat des chefs. Puis ça allait pas si bien, la campagne du Bloc. Puis tout à coup, dans le débat en anglais, il s'est fait invectiver par une journaliste anglophone. Puis ça a créé une vague de sympathie. Donc, les choses peuvent changer assez rapidement, mais essaye d'être un peu de bonne humeur. Là.
Comme on dit en bon français, game on!
Yes!
Dimanche. Yes. Hey, merci beaucoup, Antonine.
Bonne journée.
Antonine Iaccarini, analyste politique qu'on reçoit toujours avec plaisir dans le retour. 16h58. Je change complètement de sujet, mais je ne veux pas le passer sous silence. On vient d'avoir un texto de quelqu'un qui est allé voir Three Days Grace au Centre Bell hier. Puis, il les a vus 7 fois. Fait que c'est quelqu'un qui aime bien gros le band. Puis, je sais que c'est un band qui est très apprécié à Québec.